Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, le OFF, comme ça, parfois des accents shakespeariens, et qui nous viennent d'endroits inattendus, qui correspondent pas forcément au théâtre classique dont on a l'habitude. Ce sera un petit peu le cas dans le spectacle dont je vais vous parler aujourd'hui. Chers amis, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Et on est parti à nouveau avec Stéphane pour un œil en coulisses, jeter un œil derrière le rideau pour voir ce qu'il s'y passe de façon assez indiscrète. Mais c'est comme ça qu'on en apprend le plus avec les invités que j'ai aujourd'hui et qui viennent nous parler de leur preuve d'amour, parce que je suis sûr qu'avant sur scène, ils se font un bisou derrière le rideau. C'est pour ça que je disais ça. Mais après, le reste ne nous regarde pas. Preuve d'amour qui se joue à l'Espace Alia à 18h35 tous les jours. Et je reçois Anne-Dominique Desfontaines. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Desfontaines, vous avez un nom particulièrement rafraîchissant sous cette canicule estivale. Bien joué. Et à côté de vous, il y a Raphaël Bianciotto. Bonjour.
Bonjour.
Je prononce votre nom correctement. Bianciotto, Bianciotto.
Les deux sont corrects. Ça dépend si on est en Italie ou en France.
D'accord. Et on parlera aussi un petit peu de d'origine argentine, des origines italiennes qui ont fait un grand détour, si je peux me permettre.
C'est exact.
Et vous venez de nous parler, en fait, vous êtes à Avignon dans le cadre de votre compagnie, le Zéphiro Théâtre. Le Zéphir, vous venez jouer dans la ville des vents, donc en quelque sorte, je peux me permettre de dire que vous ne manquez pas d'air. Quoi qu'il en soit, on n'en manque pas de vent. Et vous avez créé le Zéphiro Théâtre, en fait, tous les deux, il me semble, à l'origine.
C'est ça. C'était en 98, suite à mon passage. Je viens de... je me suis formé avec Mario Gonzalez, qui vient du Théâtre du Soleil. J'avais fait...
Ariane Mnouchkine, des années 70, voilà.
Exact. Et donc, j'avais travaillé avec lui. Donc, à partir de 98, j'avais envie de créer ma propre compagnie. En même temps, j'avais rencontré un Dominique Desfontaines et on a mis en commun nos talents et voilà, nos envies de faire du théâtre ensemble.
D'accord. Et donc, vous avez fait à partir de cette rencontre, vous avez fait plusieurs créations. Pour ma part, je vous avais découvert il y a 2 ans. En 2016, vous étiez déjà venu présenter Preuve d'amour, ce texte de Roberto Arlt que vous avez mis adapté aux planches et au théâtre. Et en fait, vous avez fait d'autres choses depuis, puisque notamment vous vous consacrez à un autre de vos centres d'intérêt, à savoir les spectacles de clowns. Vous avez notamment fait un spectacle il y a 1 an du côté de chez vous à Paris, dans cet état d'esprit-là, mais vous avez aussi d'autres cartes dans votre jeu, il me semble.
Oui, on a créé, je voyage en Islande surtout aussi, dans le clown. Socrate, je travaille des adaptations de textes philosophiques comme la Divine Comédie de Dante et La Tempête de Shakespeare et bref, Voltaire, Candide et Voltaire. Et là, depuis 25 ans, j'avais toujours gardé, je suis arrivé en France il y a 28 ans et dans mes valises, j'avais toujours ce texte de Roberto Arlt, argentin, qui m'est... Et donc, en rencontrant un Dominique, oui, en 96, on l'a traduit ensemble, tout simplement. On s'est mis pour rigoler, parce que pour lui montrer la culture argentine, et l'a accroché. Et puis voilà, c'est arrivé en 2014, on l'a créé.
Roberto Arlt, un personnage un petit peu singulier, qui est manifestement un auteur célèbre en Argentine, un peu comme Mayakovsky est un auteur célèbre en Russie, et pourtant, en dehors des frontières, on ne le connaît pas beaucoup ou assez mal. Et pour ma part, je reconnais que je l'avais découvert avec ce spectacle, Preuve d'amour, que vous étiez venu présenter à Avignon il y a 2 ans. Roberto Arlt, un personnage qui, un auteur des années 1930, qui, à mon sens, d'après ce que j'en ai entendu et puis la recherche que j'ai faite depuis que vous l'avez présenté, était un gentil anarchiste en quelque sorte qui se distinguait un petit peu des auteurs qui eux prenaient leur envol à partir de la même période que lui, les contemporains. Je pense notamment à Borges, on connaît tous Borges, Jorge Luis Borges, pour ce qui est de la littérature argentine, et Roberto Arlt quelque part vient un petit peu en contrepoint.
Oui, il était en fait à l'époque, il y avait deux écoles, il y a Boedo et Florida. Boedo, c'était l'écriture un peu de quartier, l'écriture populaire, et Florida, c'était la culture aristocratique dont Borges faisait partie. Et Arlt, au départ, il était forcément côté Boedo, mais après, comme vous l'avez bien noté, il était en dehors de ces deux... Enfin, il était au-dessus, c'est inclassable. Et lui-même, il était pas... C'est un peu notre Céline à nous. C'est-à-dire qu'une sorte d'écriture nouvelle qu'au départ dérangeait parce qu'il prenait des mots argotiques de la rue, chose qui n'était pas faisable à l'époque d'écrire comme on parle dans la rue. La littérature, c'était un langage bien écrit, on ne répète pas les mots trois fois dans une phrase. Or, à Roberto Arlt, on l'entend tout le temps, il répète la même phrase, enfin le même mot trois fois dans une même phrase.
C'est le côté porteño aussi, c'est-à-dire un peu l'argot de Buenos Aires.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oui,
il avait une écriture très populaire et il était absolument adoré par les porteños de Buenos Aires.
Ouais.
Alors, il y avait Borges qui était très connu à l'étranger, traduit, lit dans l'intelligentsia, une compétition un peu entre ces deux hommes, et Arlt qui avait cette rage d'être lu et qui croquait le porteños de Buenos Aires. Et dans les journaux El Mundo, on croquait on publiait
des chroniques.
Ses chroniques. Et El Mundo ne voulait pas dire quand est-ce que ces chroniques sortaient, parce que les journaux s'arrachaient pour savoir « a-t-il écrit quelque chose sur nous aujourd'hui ?»
D'accord. Mais excusez-moi, mais à contrario, si je reprends votre présentation des choses, est-ce que ça veut dire que Borges n'était pas aimé des Argentins à l'époque ?
Non.
Ah ouais ?
Non. À l'époque, Borges, si, il était... Le personnage Borges... comment dire, il était même très c'est contradictoire parce qu'on l'aime parce que ça porte du prestige pour le pays, donc on s'est dit oui, Borges, mais Borges avait un regard très critique de l'Argentine et un peu aristocratique, donc ça faisait mal pour les Argentins qu'on critique les Argentins. Par exemple, il aimait pas le foot. Il trouvait ça idiot de 22 personnes courir derrière un ballon. Alors ça, pour l'Argentine, ça...
Attention, la France a gagné la Coupe du Monde hier soir. Faites attention à ce que vous dites. Hein.
Et Borges était peut-être moins lu par le...
Populaire. Il n'était pas populaire.
En largesse de...
Dans la population argentine.
La quantité de personnes, de différentes personnes capables de le lire, je pense que c'était plus restreint chez Borges que Arlt.
Oui. D'ailleurs, lui... C'est-à-dire pour Borges, moins on achetait ses livres, plus il était content. Et Arlt, c'était à l'envers. C'est-à-dire que c'était considéré, quelqu'un qui est lu, qui est populaire, voilà, est considéré comme un écrivain pas terrible. Donc,
de gare.
Voilà.
Une posture un petit peu avant-gardiste, non, et élitiste, ouais, voilà. qui n'engage que leurs auteurs, après tout, hein, parce qu'on peut faire un succès populaire,
Borges,
avoir beaucoup de talent.
Borges, hein.
Et donc, ce Roberto Arlt était un personnage aussi un petit peu torturé, qui réfléchissait beaucoup aux tensions internes à la société argentine de l'époque, quelques années avant le péronisme notamment. Donc, tout ça s'inscrit vraiment dans le contexte argentin, et c'est intéressant de découvrir cette auteur-là que, pour ma part, donc je le répète, je n'avais pas eu l'occasion d'entendre parler avant votre spectacle. Et donc, un personnage qui vous tient à cœur, Raphaël. Et quoi qu'il en soit, eh bien, c'est une première mouture que vous étiez venu présenter en 2016. Il y a quelques différences, pas majeures, mais il y a quand même quelques différences avec celles que vous présentez cette année au Festival Off d'Avignon. Vous aviez notamment une mise en scène que vous faisiez déjà d'ailleurs il y a 2 ans. Une mise en scène autour de 3 acteurs. Cette année, vous n'êtes plus que 2. Francis ne s'est pas joint à vous pour cette année.
Il est occupé.
Voilà.
Il est talentueux et brillant. Donc, il joue dans un autre spectacle. Alors,
vous le croisez quand même au festival.
Finalement. On est très très proches. Enfin, on s'entend très bien. Je dis bonjour à Francis. Il m'écoute. Et on a pris le parti pris. Au débat, on voulait remplacer, donc trouver quelqu'un d'autre. On n'a pas trouvé. Et donc, du coup, je dis, bon, allez, on va faire une nouvelle mise en scène à deux. Et j'ai fait appel à Mario González pour avoir un regard artistique. Parce que comme j'étais sur le plateau presque tout le temps, j'avais besoin d'un regard artistique. Donc, il y a une petite nouvelle restructuration de la mise en scène. Ça a grandi. Les propos changent dans un sens, sont plus marqués. Tous les rapports hommes-femmes ressortent plus qu'avant. Voilà.
Parce que votre spectacle ne fait pas Shabadabada, mais l'histoire elle-même est intemporelle. C'est un homme, une femme qui s'engueule, qui se rabiboche, hein, pour rester dans les comparaisons sur, sur l'affiche, d'ailleurs sur le visuel du spectacle, que les auditeurs qui nous écoutent en direct sur Facebook et qui voient la vidéo peuvent voir sur à la webcam. Le visuel est assez joli. Vous êtes beau comme des acteurs de cinéma muet des années 1920-1930. Ouais, en ce sens, votre histoire me rappelle un petit peu l'Aurore de Murnau, hein, c'est-à-dire un homme, une femme, il s'engueule, il se rabiboche. Mm-hmm. Et donc, cette histoire est éternelle en soi. Elle est, Roberto Arlt n'a vraiment rien fait d'original. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il l'aborde et la façon dont il mêle d'autres thèmes à cela. Et si cette histoire, c'est un homme, une femme, finalement, elle associe aussi d'autres thèmes, comme la place de la femme dans la société argentine, avec des partis pris, on peut parler de partis pris en l'occurrence, assez novateurs pour l'Argentine des années 1930.
Peut-être que je vais laisser parler à Dominique.
On se trouve avec une femme qui, finalement, est pieds et poings liés à satisfaire ce que la société attend d'elle, c'est-à-dire se marier pour pouvoir avoir une place. Mais en même temps, elle a cette vitalité intérieure où elle sait qu'autre chose l'appelle et elle a vraiment envie de vivre sa vie, quoi, et d'être critique par rapport à ce qui se passe. Mais on va voir en même temps dans cette pièce toute cette contradiction où cette critique qu'elle a va se renverser quand elle joue cette scène d'amour ou de quiproquo avec le fiancé, où finalement elle va quand même courir à vouloir se marier avec lui, quoi, tout en critiquant.
On ne se débarrasse pas de 2 ou 3 000 ans de conditionnement patriarcal comme ça. Hein.
De conditionnement, de contradiction, parce que qu'est-ce qui nous fait courir? Est-ce qu'on s'appuie sur ce qui est dit ou ce qu'on pense ou le cœur? Et tout ça se mélange et c'est pour ça que le tango est bienvenu pour donner un peu de distance à tout ça entre ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se pense, ce qui se danse. Et c'est le mariage de ça qui fait la vie de couple.
Il n'y a pas que l'écriture de Roberto Arlt qui est un petit peu anarchisante. Il y a aussi les conditions du direct dans lequel on enregistre cette interview. Et donc il y a un petit peu de bruit derrière nous, mais que ça ne dispense pas les chers auditeurs de s'intéresser à votre propos. Et notamment, je ne peux pas empêcher d'avoir une petite question peut-être un peu personnelle, pardonnez-moi Raphaël. Dans l'Argentine contemporaine, quand bien même vous êtes expatrié depuis un peu plus de 20 ans, dans l'Argentine contemporaine, est-ce qu'on ressent encore cette tension que décrivait Roberto Arlt il y a presque 100 ans?
Bien sûr, ça n'arrête pas. Je pense que c'est les tensions... Vous voulez dire tension entre l'homme et la femme ou tension...
Entre autres choses, mais aussi les tensions au niveau social et politique.
Social et politique, oui, bien sûr. Il écrivait beaucoup sur la politique. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit Macron. Il s'appelle Macri, le président argentin. Mais il est doublement foireux que notre Macron à nous. C'est-à-dire néolibéral à fond. C'est vraiment dommage parce que c'est la casse sociale. Voilà.
D'un pays qui en avait déjà vu beaucoup d'autres dans les années 70 notamment. Alors bref, pour conclure un petit peu sur ce Roberto Arlt, si vous me permettez une impression personnelle, je l'avais découvert donc grâce à vous il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de me renseigner un petit peu depuis et peut-être ma comparaison est un peu osée, mais il me semble que Roberto Arlt est à la littérature argentine des années 1930, ce que Luis Buñuel a été au cinéma mexicain d'à peu près la même période, à savoir qu'il n'était pas réfractaire à une poésie un peu fantasque, plus que fantastique dans l'écriture, mais il tenait quand même à s'inscrire dans un réalisme très marqué et à des problématiques sociales. Mmh. Et je ne sais pas si Luis Buñuel, Roberto Arlt, ça peut se défendre comme comparaison.
Oui, Buñuel était plus dans le surréalisme. Je pense que Roberto Arlt, il n'était pas aussi surréaliste que Buñuel, mais il y a des pièces de théâtre de Arlt où on touche à l'onirique. Et donc, on part dans des choses un peu plus... le support du film, c'est différent, mais oui, il y a des ressemblances avec Buñuel. Buñuel n'était pas espagnol ?
Buñuel était d'origine espagnole, mais il a fait toute sa carrière au Mexique.
Moi,
j'ai pensé à certains égards à Los Olvidados, où il s'intéresse aux gosses des rues, en fait. Voilà, c'est aussi pour ça que je faisais la comparaison.
Oui.
Mais vous avez raison, c'était plus le surréalisme que le réalisme.
Mais il avait un côté, il était chroniqueur aussi, il allait dans les hôpitaux de province, chose que personne ne s'occupait des choses comme ça. C'était un homme... très humaniste. Il allait dans des lieux où personne n'y allait à chercher la vérité, parce qu'il était un obsédé de la vérité. Donc, on retrouve ça dans le mot vérité, est nommé, je ne sais pas combien de fois, 50 fois dans la pièce de théâtre. La vérité absolue, toute la preuve d'amour est une quête d'absolu, en fait, de l'homme qui cherche à savoir si sa fiancée l'aime pour lui ou pour son argent. C'est un peu l'intrigue de fond. Mmh. Mais c'est une quête qui va au-delà de... C'est comme un papillon qui veut voir qu'est-ce que c'est que la lumière. Donc, une fois qu'il accède, quand il touche la lumière, il accède, certes, mais voilà, il est mort.
Voilà, j'allais en venir justement à cette intrigue par laquelle que vous mettez en valeur dans la mise en scène, ouais, par différents moyens, la musique, la danse et aussi les projections, puisque si vous êtes deux sur scène et qu'il n'y a plus ce personnage un petit peu qui incarnait un genre de cœur antique en quelque sorte, parce que il y avait un troisième personnage que vous incarniez à l'époque, Raphaël, et qui était l'auteur lui-même, Roberto Arlt, en plus de l'homme, la femme, lui, elle, et bien il y a deux personnes sur scène dans votre version 2018, mais quelque part, je me dis qu'il y a quand même en arrière-plan un troisième personnage, ne vous déplaise, c'est l'Argentine elle-même, par la société, par les tensions sociales, par la musique notamment.
La musique.
Et l'écriture de Roberto Arlt, qui est projetée justement. Alors, c'est un parti pris de mise en scène, parce que l'écriture vous est particulièrement, vous tient particulièrement à cœur, et vous proposiez d'en citer quelques passages, si le cœur vous en dit.
Alors, c'est-à-dire que l'écriture de Roberto Arlt, elle apparaît comme une machine à écrire en vidéo. Et j'aime bien la sonorité de la machine à écrire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quoique, il y a certains claviers qui font des faux tic-tic-tic. Mais bref, je vais vous lire.
Donc, ça renforce un petit peu cette ambiance passéiste, un peu vintage, rétro, des années 1930, où évidemment le son des machines à écrire faisait partie du quotidien.
C'est magnifique.
Mais l'auteur est bien présent, parce que dans les écritures, c'est bien signé Roberto Arlt. On voit bien l'homme est nommé. Quoi.
Voilà, donc je vais lire un petit passage de ces écrits de Roberto Arlt qui parle. Pourtant, il faut être fort. Et perdre un rêve est presque comme perdre une fortune. Que dis-je ? Pire. Il faut être fort. Voilà la seule vérité. Et ne pas avoir pitié. Et bien qu'on se sente fatigué, se dire « J'éprouve de la fatigue maintenant, j'éprouve des regrets maintenant, mais je n'en éprouverai pas demain. Voilà la vérité. Demain. » Roberto Arlt.
La vérité, l'absolu, l'espoir en l'occurrence. Ouais. Et tout à l'heure, je disais, en introduction de cette émission, je parlais un petit peu d'aspect shakespearien dans le théâtre, puisqu'effectivement, il s'agit peu ou prou de ce qu'on pourrait qualifier de tragédie. Et pourtant, l'aspect humour et l'aspect poétique est loin d'être absent. Je parlais de ces projections du texte lui-même à l'instant. Et vous avez utilisé notamment la musique, pour nous replonger là encore, pour renforcer l'ambiance des années 1930, en diffusant pas seulement du tango d'ailleurs.
Non, il y a du Caruso, il y a un hymne au drapeau, en fait, à un moment donné. Et c'est un hymne que j'écoutais quand j'étais tout petit à l'école. On nous faisait, en fait,
c'est joué pendant le 25 de maillot, c'est ça ?
Non, même pas. C'est tous les matins.
Ah d'accord.
À 8h du matin, on commençait dans la place, enfin à la récré, et on se retrouve en file. Et puis il y avait la montée du drapeau, et on montait le drapeau avec un vieux truc, un vinyle. Et on entendait l'hymne au drapeau. On a des hymnes pour tout, là-bas. Il y a l'hymne au drapeau, l'hymne au cheval, l'hymne à... Bon, bref.
L'Argentine est un pays très musical, de toute façon.
Oui, il y a aussi des radios, des vieilles radios, des sonorités, des publicités de l'époque,
qui
donnent aussi une ambiance...
C'est pas seulement la musique, c'est tout l'environnement sonore. En fait,
voilà. Évidemment, il y a le tango, il y a Piazzolla, Gardel, Pugliese, bon, enfin, tous les grands classiques. Peut-être que les connaisseurs, bon, Piazzolla, tout le monde connaît, mais Pugliese, Troilo, ce sont des
pareils. Très marqué justement dans cette première période du tango des années 1930, si ma mémoire est bonne. Et vous utilisez aussi, bien entendu, puisque vous parliez de tango, la danse, ça va de soi. La danse dont vous avez confié la chorégraphie de nouveau à Catherine Berbessou. Comment s'est fait la rencontre avec elle ?
Alors, je laisse Anne-Dominique parler, sinon je vais te prendre
parce
tout le temps le micro.
Parce que Catherine Berbessou vient de la danse contemporaine, en fait. Ça a pu influencer un petit peu votre mise en scène.
Pardon, j'ai pas,
Catherine Berbessou vient de la danse contemporaine et était venue au tango plus tard. Alors, oui. Je me dis que ça a peut-être influencé votre mise en scène.
C'est sa qualité d'œil de chorégraphe qui est habile, apte à faire de la chorégraphie contemporaine sur le tango qui a été utilisée pour partie dans le spectacle. Oui. Mais nous, on l'a rencontrée via le tango. On cherchait à danser le tango et j'avais été fascinée par les spectacles de Catherine qu'elle avait fait valser.
A Fuego Lento,
qui était vraiment magnifique
si
sur le tango.
Non, j'ai pas vu. J'ai vu aucune de ses chorégraphies, en fait.
Après, j'ai entendu
parler d'elle régulièrement.
On a travaillé pendant 10 ans avec elle. On faisait la formation pour artistes de tango avec elle et Federico Rodriguez Moreno. Mm-hmm. Voilà, et donc, on s'est liés artistiquement et on lui a demandé de travailler cette chorégraphie avec nous. Donc, elle a travaillé aussi avec l'habileté. À l'époque, c'était Francis qui était comme partenaire de couple et il ne dansait pas le tango. Donc, il y a eu une écriture contemporaine aussi à cause de ça. Mais finalement, c'est magnifique. Il l'a repris et c'est magnifique aussi d'avoir d'autres danses que le tango sur du tango. Et la capacité de Catherine de donner ce qui est le tango sans que ça soit du tango dansé forcément. C'est-à-dire ces relations entre les hommes, cette complexité de cet abrazo, s'approcher, mais en même temps circuler, qui guide, quand est-ce qu'on alterne le guidage, quand est-ce qu'on donne à l'autre et quand est-ce qu'on reçoit, voilà. Tout ça, c'est la qualité de Catherine.
D'accord. Et ben c'est amusant, justement, parce que la scénographie compte dans ce spectacle, qui n'est pas un spectacle, un ballet, un spectacle de tango, mais qui, dans lequel le tango a une place importante dans cette pièce de théâtre. Et pour ma part, donc je vous avais découvert en 2016 avec Preuve d'amour. Et l'année suivante, l'an dernier, en fait, j'ai revu Preuve d'amour.
Ah,
c'était au festival Villeneuve-en-Seine, où j'ai vu des marionnettes interpréter des marionnettes à taille humaine, interpréter le texte de Roberto Arlt et danser le tango. Voilà.
Donc vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu, c'était magique. Et c'est justement pour moi, de mon point de vue, ça faisait écho à ce que vous aviez fait précédemment.
Moi, j'ai dit dans le spectacle que le tango, la danse, en tout cas, c'est comme le fil qui coule les scènes. Voilà.
Et une autre chose amusante aussi, c'est que vous, Raphaël, dans votre enfance en Argentine, en fait, pour vous, le tango, c'est un truc que vous intéressait pas du tout. Oui. C'était le truc que dansaient les vieux cons. Et
exact.
Finalement, il vous a fallu rencontrer Anne Dominique pour vous intéresser au tango.
Eh oui. Finalement, on peut pas échapper. Le tango, c'est quelque chose. Un Argentin, quand il arrive à Paris, en plus, c'est presque un classique. Tu peux pas. Il te colle. T'es Argentin et si tu peux pas dire je suis Argentin et pas danser les tangos, ça n'existe pas. On te renvoie. Tu vois, te renvoie chez toi.
Ah, c'est marrant parce que finalement les conditionnements que subissent les femmes, on les renvoie toujours à leur qualité soit de pute, soit de mère.
Ouais. Hein,
c'est cette dualité. Un Argentin, t'es forcément un danseur de tango.
Voilà. Donc,
vous en sortez très bien si je peux me permettre. Quoi qu'il en soit, chers amis, je vous invite à aller voir ce spectacle à 18h35 à l'Espace Alia tous les jours.
Sauf le mercredi.
Preuve d'amour, Puebla de Amor, c'est dans la version si originale. Voilà, et vous pourrez apprécier cette ambiance un petit peu onirique des années 1930 en Argentine, avant les dures périodes qu'a vécu ce pays-là, mais qui a gardé aussi déjà dans lequel on pouvait sentir les prémices de tout ce qui fait sa force.
Ouais.
La musique, une organisation sociale un petit peu solide, quoique avec beaucoup de tensions, et donc des gens passionnés pour nous en faire l'écho sur les planches du festival. Et bien, puisque vous veniez du rock, merci Raphaël, merci Anne-Dominique d'être venue nous parler du spectacle.
Merci.
Et puisqu'on parlait de rock et de tango à l'instant, et bien je vous propose d'écouter pour conclure cette interview et nous faire une petite idée de l'ambiance de votre spectacle, un groupe qui marie à merveille, à mon sens, le rock progressif et les ambiances du tango argentin, c'est l'Oblivion Quartet.